Merci. Merci. Je voudrais tout d'abord dire combien je suis heureux ici, parce qu'une séance de remise de prix est toujours agréable. On fait ça au niveau national sur l'Acropole, et c'est très important. Les académies ont un rôle essentiel, c'est reconnaître le talent des générations futures, de ceux qui un jour seront ici, à la place de l'autre côté des tribunes. Ça arrive, rassurez-vous. Dans chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui remplace quelqu'un. Personne n'est remplaçable. Deuxièmement, je voudrais m'excuser auprès de mes confrères de l'Académie ici à Toulouse. Je ne suis pas très assidu depuis un certain nombre de temps, mais je vous fournirai les billets d'excuses de mes secrétaires perpétuels, si vous voulez. Voilà, je serai beaucoup plus assidu, merci, beaucoup plus assidu l'année prochaine, à partir de 31 décembre 2016, lorsque je quitterai mes fonctions parisiennes, et je serai à ce moment-là beaucoup plus tournant. Alors, la conférence d'aujourd'hui, c'est exactement les diapositives qui ont été utilisées pour moi, leçon inaugurale au Collège de France, sur les, ce qu'on appelle des chaires annuelles. Le Collège de France a un certain nombre de chaires titulaires classiques, 37-38 selon les années, et il y a 4 chaires annuelles, donc une chaire innovation, qui est une innovation financée par la fondation Liliane Bettencourt, et qui permet à des personnes comme moi, sur un thème précis, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Mon successeur cette année, c'est Alain Sahel, qui va parler naturellement de l'Institut de la Vision et des nouvelles techniques de rétine artificielle. Voilà. Donc, c'est la même leçon inaugurale, moins quelques diapositives, de façon à ne pas prendre trop de temps pour la remise des prix. Alors, quelques remarques sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique. On va remettre le point de départ, le T0, à peu près à l'époque où on a commencé à faire de l'extraction de plantes, de produits naturels. On est dans les années 1920-1930 et on commence à extraire des alcaloïdes de plantes médicinales qui étaient connues depuis longtemps. Et c'est comme ça que l'extraction de la quinine se fait et que l'on sort de la petite pharmacie d'officine au début de l'industrie, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les premières usines d'extraction importantes. Alors, il y a déjà des polémiques en 1820-1830. Les gens se posent des questions. Est-ce que cette quinine extraite pure, propre, est-ce que c'est aussi actif que lorsque l'on avait une décoction, une infusion? Donc, on a déjà, il y a plus maintenant de 150 ans pratiquement, déjà une discussion sur les produits naturels ou des produits chimiques, à partir du moment où ils étaient purs, ils étaient qualifiés de chimie. Il y a tout de même un avantage, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a le principe actif qui est purifié, la notion de dose active, de quantification devient possible. C'est un grand changement dans l'activité des pharmaciens, c'est de comprendre la notion de dose et de dose efficace. Voilà, je vous rappelle que la quinine, c'est deux pharmaciens parisiens, Pelletier et Carantour. Vous avez une statue magnifique en face pratiquement l'école des mines, boulevard Saint-Michel à Paris. Et voilà, l'évocation du paludisme par l'artiste, une femme qui a mal à la tête, enfiévrée, et l'inscription Petit et Cavantou, première. On est dans l'extraction de l'écorce de quinine, de la quinine de l'écorce de quinine. Voilà la structure de la quinine, vous voyez qu'en bleu, on a fait des modifications chimiques à partir de quinine. C'est-à-dire que c'est un des grands classiques de ce qu'a été l'extraction de produits naturels. Et à partir de produits naturels, on fait d'autres dérivés. Et maintenant, pour faire chic, on va appeler ça de la recherche bio-inspirée. Ça, c'est récent, mais c'est à peu près 150 ans. Donc, il est important de changer de nom sur quelque chose. Voilà. Si je vous dis flore intestinale, ça fait moins chic que microbiote. C'est la flore intestinale, c'est pour ça. Voilà. Alors, le couple chimie-biochimie a été un des vecteurs les plus importants du développement de l'industrie pharmaceutique tout au long du XXe siècle. Pour deux raisons. C'est qu'on a commencé à comprendre la notion de clé-serrure, c'est Fischer en 1894, et la notion de récepteur, Paul Ehrlich, 1906. C'est-à-dire qu'il y a l'association de l'esprit du chimiste qui comprend qu'une molécule interagit sur un récepteur s'il y a une structure qui permet cette interaction, la notion de clé-serrure, et il y a la découverte du biochimiste protéine qui est capable d'accepter un inhibiteur, un effecteur ou autre. Ces deux concepts ont été à la base de tout le développement de l'industrie pharmaceutique au cours du XXe siècle. Et donc ce couple chimie-biochimie a été merveilleux. Ça a permis de construire des groupes pharmaceutiques de grande taille et qui avaient toujours ce que j'appelle deux pattes, la chimie et la biochimie. Alors on se retrouve dans notre mémoire avec qui se souvient de ICI ? Ça existait dans le matériel. Oui, il y a quelques-uns dans la salle, je le sens bien. Mais parmi les plus jeunes, je suis sûr que ça ne correspond à rien. Voilà, Ron Poulin, certains s'en souviennent. Hux, Merck, Sandoz, Sibagaini, Pfizer, Smith Lang, Beecham. Voilà, tout ça, c'était des grands noms de l'industrie pharmaceutique. Et c'était des groupes qui étaient structurés avec un pôle chimie et un pôle biochimie. Voilà. Les années 60, je passe très rapidement sur le développement de l'industrie pharmaceutique pour arriver aux années 70-80 du siècle dernier. À l'époque, il n'y a aucun grand groupe pharmaceutique qui dépasse 4 à 5% du marché mondial. Et puis peu à peu, le coût du développement augmente, les fondateurs de groupes familiaux disparaissent, les familles revendent, et vous avez une série de ce qu'on appelle en jargon économique fusion-acquisition. Et qui va conduire à la construction de grands groupes internationaux. Un des grands groupes internationaux, c'est Sanofi. Et Sanofi, ce n'est pas autre chose que la collection d'achat de toutes les start-up de l'industrie pharmaceutique française des années 1950-1960. Voilà comment a été construit Sanofi. Après le choc pétrolier de 1973, il y avait de l'argent dans le groupe Alpha-Quitaine. Et Sautier et Dehaec ont été les acteurs principaux de la construction de Sanofi. Alors, Sanofi, ça a donné Sanofi, mais il y a eu donc les 45 ans. Vous avez ici, à Toulouse, un nom classique, c'est Parcor. Là-bas, à Bordeaux, Claire Midi, qui avait construit un magnifique labo à Montpellier. Voilà, tout ça, ça a été Sanofi chaud, et on va passer. Je ne vais pas vous réciter la liste des 40. Et puis après, il y avait Saint-Élabo qui avait été un groupe pharmaceutique monté par la société L'Oréal, qui a fusionné avec Saventis, avec Sanofi. Saventis, c'est le résulté de la fusion de Ron Poulin qui avait fusionné avec Rohrer, Ross et Duclaf qui avait fusionné avec Marion Merrell Dahl, Hux Pharma, tout ça, ça donnait Saventis. Et Sanofi, Saint-Élabo plus Saventis, ça redonne Sanofi. Vous voyez que là, on est dans la construction d'un monopole industriel de fusion-acquisition, bien. Ça fait des grands groupes, et des grands groupes de taille internationale, bien. Et après. Le problème de ces grands groupes, c'est que la structuration de ces grands groupes, elle change brutalement. Jusque dans les années 60, 65, 70, vous aviez souvent un fondateur associé à un brillant chimiste, pharmacien ou biologiste, et vous aviez dans l'état-major de ces groupes familiaux des gens extrêmement compétents sur le plan scientifique qui étaient numéro 2, 3 ou 4, ou parfois numéro 1. À partir du moment où on rentre dans les fusions-acquisitions, c'est les financiers, les spécialistes des fusions-acquisitions, qui sont à la manœuvre. Et ils prennent le pouvoir dans les états-majors des grands groupes pharmaceutiques. Ensuite, ils ont une couche N-1, N-2 de gens qui ne sont pas très compétents pour une vue scientifique, mais qui ont une très forte capacité à dire aux dirigeants qu'ils sont de très bonne qualité. Ça, c'est une couche de Faraday, comme l'aurait dit Potier, qui est parfois destructive dans un certain nombre de groupes. Puis vous avez le niveau technique, N-3, N-4, N-5, dans lequel vous trouvez des gens de talent et qui essayent de faire passer un certain nombre de messages vis-à-vis de la haute direction des groupes. Ce jeu-là est très destructeur sur le problème de la création. Pourquoi ? Parce que les managers qui ne connaissent rien et qui souvent changent de groupe. On a eu par exemple dans un grand groupe suisse quelqu'un qui venait du groupe Heinz. Heinz, c'est tomato ketchup. Donc vous voyez, quand vous passez de tous ces successeurs de Vasella, vous passez du tomato ketchup à Novartis, c'est un choc culturel. Vous pouvez lire les bilans, vous pouvez ça, ça n'y a aucun problème, mais après, pour comprendre ce qu'est l'industrie pharmaceutique, c'est autre chose. Donc ce que vous faites, vous demandez des rapports. Et vous demandez des consultants qui vous font des rapports à l'extérieur. Donc la construction de décision d'un grand groupe international est basée sur la création permanente de rapports, qui montre les descentes de la hiérarchie verticalement, horizontalement, trois dimensions, dans tous les sens. Ça, c'est absolument destructeur de création. Parce que vous n'avez plus personne qui est capable de prendre des décisions en ce qui concerne la création d'un nouveau médicament. Les gens n'ont pas la compétence. Donc ils sont en permanence en train d'écouter quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a entendu quelqu'un. Et ça, ça produit ça. Ça produit des rapports, et ça produit quelque chose qui est totalement destructeur. Alors on dit normalement il n'y a plus de papier, tout ça c'est dématérialisé, et c'est vrai. L'arrivée des ordinateurs est une chose merveilleuse, si vous voulez faire un certain nombre de choses, mais le revers de la médaille, c'est que c'est absolument destructeur. Ça vous permet de créer une quantité de documents que vous ne voyez pas, mais en nombre infini. Il y a 30 ans, lorsqu'un chef de service voulait envoyer une note de service, c'était un peu compliqué. Ou quand un directeur général du CNRS voulait envoyer une note de service, il fallait utiliser les services postaux, les enveloppes, les adresses, papier carbone, tout ça. Maintenant, vous avez la capacité à produire n'importe quel formulaire de 30 pages qui n'intéresse personne, et l'envoyer à 6 000 chercheurs dans son cours, en leur demandant de renseigner le document. Et ça, c'est destructeur. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à emboliser totalement l'emploi du temps des chercheurs. Ils ne font que ça. Et l'ordinateur devient un poste de travail qui permet aux gens d'avoir l'impression un peu qu'ils travaillent. C'est vrai, vous êtes devant. Mais le conducteur de locomotive ou le TGV ou le pilote, lui, il est des ordinateurs, mais il a tout de même une tâche. Il y a un moment où il doit partir avec son train pour arriver à une gare, c'est possible à l'heure. Mais le chercheur qui est embolisé par la bureaucratie environnante, il perd cette notion-là. Donc il a deux possibilités, soit se déprimer, soit se dire, bon, la pause café à 10h30, j'attendrai bien, je vais très très bien mettre ce devant. Donc la création, qui est le nerf d'innovation, elle a tendance à disparaître. Ça, c'est un vrai problème. Bien, alors, la diminution de l'efficacité de la recherche des grands pharma. Je viens de vous expliquer quelques facteurs, il y en a d'autres, mais il est évident qu'à partir du moment où vous n'avez plus de créativité, il n'y a plus de création réelle. Alors, tout ça, ça a un coût. Quand on vous dit c'est une création d'un médicament, c'est un milliard pour quoi ? De travail à la paillasse, dans les laboratoires, au niveau de la librairie, ou du travail de personnes qui sont derrière l'ordinateur, qui remplissent des fiches construites à partir de guidelines. Quelque part, je pense que plus de 70% du milliard, c'est juste de la paperasserie. La création d'innovation, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que ça, mais ça ne fait rien, il faut payer le reste. C'est un coût. Alors, il y a des choses qui ont changé, c'est que quand vous demandez à certains acteurs ce qu'était le passage du brevet au marché, c'était 7-8 ans dans les années 80, maintenant c'est 10, 12, 15, 16 ans qui posent un problème. Les brevets ont une durée de 20 ans, vous pouvez ajouter quelques années de plus, mais sans plus. Et donc, le modèle économique de l'industrie pharmaceutique est très perturbé. Ça consomme de plus en plus de capitaux, et pour une efficacité de plus en plus faible. Donc c'est le contraire de ce qui s'est passé dans l'industrie de l'ordinateur, où on avait des ordinateurs extrêmement chers, extrêmement lourds, extrêmement gros, il y a 30 ans ou 40 ans, qui sont devenus de moins en moins chers, de plus en plus efficaces. Vous avez sur n'importe quel ordinateur ici une puissance qui est 10 fois celle qu'a utilisée la NASA pour envoyer des hommes sur la Lune. Voilà. Et vous avez dans tous les bureaux de France et de Navarre des gens qui se plaignent que leur ordinateur ne va pas assez vite. On sent bien qu'entre Apollo 13 et puis ça, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas grave. On a une puissance informatique qui sert de plus en plus à rien. Voilà. Alors, est-ce que la perte de créativité se mesure ? La réponse est oui. Et c'est un travail très intéressant de monsieur qui s'appelle Munoz, qui est un Français d'origine, qui a été formé en agro, ingénieur agro Paris, et qui a été travaillé chez Didi, et qui s'amusait à regarder ce qu'on appelle les nouvelles entités moléculaires en fonction du temps. Et dans les années 50, en bleu, c'est principalement les grands groupes pharmaceutiques qui innovent, et puis les petites entreprises, en vert, c'est 20, 30, 40%. Puis alors, vous voyez, à un moment, à partir des années 2000, les courbes se croisent. Et maintenant, c'est vrai que Ça continue. En vert, vous avez les petites entreprises qui innovent et en bleu, les grandes entreprises qui n'innovent plus, qui rachètent les molécules sorties de phase 2. Donc, quand tout problème de création, la difficulté de sélectionner les molécules, les premiers essais cliniques sont passés, on fait le reste et vous entendez dans les grands groupes pharmaceutiques, pour ceux qui sont à la recherche d'un groupe pour développer une molécule, c'est votre projet est intéressant, mais revenez à la fin de la phase 2. Donc tout l'enjeu actuellement dans un pays comme la France, c'est comment financer toute la recherche préclinique et le début de la recherche clinique. Il y a tout de même quelques sous qui sont impliqués. Voilà. Deuxième chose que l'on entend et que l'on n'entendait pas il y a 20 ans, 30 ans, il y a 30 ans, c'est qu'on entend maintenant parler de biopharmaceutique, un peu menace, mais ce n'est pas grave, mais les biologistes souhaitent définitivement se démarquer des chimistes et ont tendance à considérer que les petites molécules fabriquées par les chimistes, c'est la vieille industrie pharmaceutique. Et qu'on va avoir une nouvelle industrie pharmaceutique qui, naturellement, va être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente que la précédente, et qui va permettre de faire de la médecine personnalisée, qui est un mot magique. Au début du XXe siècle, si on n'arrive pas à flatter l'ego de tout le monde, on est à côté du marché. Donc, on réussit à expliquer que tout a été fabriqué et conçu pour vous. Donc, c'est fabriquer des objets comme des ordinateurs en dizaines de millions et faire croire que chacun a le meilleur ordinateur, le meilleur téléphone portable par rapport à son voisin. Mais ça, c'est autre chose. C'est la vie moderne du XXIe siècle. Alors, petites molécules versus biopharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on appelle les biopharmaceutiques? C'est principalement, essentiellement, actuellement, des anticorps monoclonaux. On sait fabriquer des anticorps monoclonaux humanisés, propres et efficaces depuis à peu près 25-30 ans. Et on a ce phénomène-là qui s'est bien développé. Je ne parle pas du tout des vaccins, c'est vraiment un domaine en soi. Et heureusement qu'on a des vaccins sur un certain nombre de maladies pour lesquelles on n'a aucune autre thérapie. Voilà, alors, la révolution des omics, elle est due au fait que non seulement on a compris ce qu'était la structure de l'ADN dans les années 1955, mais réellement on a fait de la biologie moléculaire à partir des années 80-85. À partir des années 80-85, on commence à avoir les enzymes d'origine bactérienne qui permettent de couper les nucléases ou les ligases, de recoller les morceaux d'ADN. Et là, on va faire des biotechnologies, et là, on va faire de la génétique moléculaire comme on n'en avait pas fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça va permettre le développement de toute la génétique moderne et de tout ce qu'on appelle les théories des données, parce qu'il y a les ordinateurs qui permettent de traiter massivement des données. On peut stocker votre ADN dans une banque de données, le comparer avec des millions d'ADN, on va faire du traitement de big data. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On parle big data. On dit des milieux sont persuadés qu'on va faire d'innovation thérapeutique en utilisant les big data, c'est-à-dire en brassant juste l'existant. Donc, quelque part, voilà. Si on avait fait du big data sur les fabricants de cierges et de bougies au milieu du 19e siècle, c'est sûr qu'on n'aurait pas inventé de l'ampoule électrique. Mais ça fait. C'est comme ça, Big Data, on va avoir ce mot-là qui va revenir, les gens vont persuader que ça va faire de plus en plus d'informatique pour des choses dont on peut se poser la question de savoir si c'est bien. Alors la médecine personnalisée, j'en ai un petit peu parlé, ça permet de faire des choses dans le domaine du cancer. Et tout ce qui sort du domaine du cancer n'est pas toujours applicable à d'autres domaines thérapeutiques. Maintenant, est-ce que définitivement les petites molécules des chimistes sont à mettre à la poubelle? On va regarder ce schéma-là. Ce schéma, c'est les mises, les autorisations de mise sur le marché entre les petites molécules, qui ont une espèce de grippe à l'eau, et puis les biopharmaceutiques, principalement les anticorps ou des protéines recombinantes diverses et variées. Et vous regardez, depuis 1993, l'époque où on commence à faire des anticorps monoclonaux de manière propre, vous regardez l'évolution calculée selon les données de la FDA. Eh bien, au bilan, de là à là, vous avez 541 petites molécules qui sont données des médicaments contre 84 produits dits biopharmaceutiques. Vous avez un rapport 6,4 à 1. Grosso modo, 80% sont toujours des petites molécules. Et ça ne change pas. Et je vous fais une prédiction, c'est que sur l'avenir, ça ne changera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on n'atteint pas avec des anticorps monoclonaux. Si vous avez besoin de passer une barrière un peu compliquée, eh bien, vous ne passez pas la barrière un peu compliquée, là, par exemple, la barrière hémato-encéphalique avec des anticorps monoclonaux. Vous le traitez à l'extérieur pour essayer de rééquilibrer les amyloïdes, mais ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et donc, quand vous avez besoin d'aller à un endroit protégé par une membrane très efficace, vous avez besoin d'une petite molécule. Et les chimistes en chimie thérapeutique savent maintenant qu'avec la règle de Lipinski, on peut essayer de faire des molécules qui passent les barrières. Donc voilà, il va y avoir pour les 20 ou 30 prochaines années un rapport 20-80 entre petites molécules et anticorps monoclonaux. Alors, les avantages des biopharmaceutiques ils sont immenses dans le domaine du cancer. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du cancer, ce que vous avez besoin, c'est de traiter, d'éliminer une cellule humaine qui a dévié de la bonne marche par rapport à une cellule normale. Il est évident que les produits chimiques, ça passe faire ça très bien. Parce que la distinction entre une cellule tumorale et une cellule normale, un produit chimique lambda n'est pas capable d'avoir des instruments de reconnaissance cellulaire pour faire ça. Et donc, dans le domaine du traitement du cancer et d'un certain nombre de maladies où vous avez besoin de reconnaître une cellule-ci, les anticorps ont été des merveilleux. Ça va continuer à se développer dans ce domaine-là et on peut espérer qu'une chose, c'est que toute la fabrication de ces merveilleux outils thérapeutiques est un coût qui diminue. Que les petites molécules ont un avantage, c'est qu'elles ne coûtent pas cher. On va rediscuter un peu quand même des bilans. Bilan, on va coûter 10 sous. L'arthrite rhumatoïde, c'est difficile à traiter. Avec du paracétamol, ça ne marche pas très bien. Il y a un certain nombre d'anticorps. On voit là 3 noms. Et le coût annuel, c'est entre 11 000 et 14 000 euros par an. Ça, c'est une étude suédoise qui donne ces chiffres-là. 11 000 à 14 000 euros par an, lorsque c'est remboursé par la sécurité sociale, par un pays, ça veut dire que vous payez à quelqu'un tous les ans une voiture neuve. Pas une grande voiture, mais une voiture neuve. Petite, moyenne. C'est un coût social. Vous ne pouvez pas imaginer faire ça sur 5 millions de personnes. On n'a pas encore imaginé d'avoir un système de sécurité sociale ou de protection sociale qui permette à chaque Français d'avoir une voiture neuve tous les ans. Il y a des chiffres, il y a des multiplications qui ne fonctionnent pas. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie dite de pompe, qui est un déficit de cette enzyme, qui est une glucosidase. Eh bien, il y a une enzyme recombinante qui est produite par Genzyme, qui a été rachetée fort cher par Sanofi. Traitement, 200 000 euros par an. Il y a deux hôpitaux parisiens qui ont l'autorisation d'utiliser cette enzyme recombinante pour traiter les patients. Mais vous comprenez que si vous traitez beaucoup de patients sur ce type de maladie orpheline à 200 ou 300 000 euros par an, il y a un moment, à votre bout d'échelle, on va dire aux infirmières, « Ah, vous n'avez pas à changer vos gants aussi souvent parce que les gants de table, le budget est épuisé à la fin du mois de septembre. » Donc, on a ces difficultés-là. Le budget social des pays développés n'est pas extensible. Donc, il y aura des choix, et des choix qui sont parfois difficiles à faire. Et quand on reprend les chiffres de ce que sont les budgets de santé, regardez les États-Unis, presque 18% du PIB, contrairement à l'Allemagne qui est à 11%, la France 11%. La France et l'Allemagne, on est à peu près au même niveau. Est-ce qu'on est beaucoup mieux soigné aux États-Unis qu'en France ou en Allemagne ? La réponse est non. Le taux de mortalité, la façon dont on évite les mortalités infantiles, le traitement des maladies, et du stade de l'Allemagne, que ce soit dans un hôpital de la côte Est des États-Unis ou un hôpital en anglais, français ou allemand. Et il y a une différence. Il y a un paramètre entre ça et ça, c'est que les avocats aux États-Unis sont beaucoup plus chers qu'en France. Voilà. Donc, il y a à peu près 5% du PIB, c'est les frais d'avocat. Les procès, c'est ça. Donc, le budget de santé, c'est aussi freiner les procès. Parce que si votre budget de santé sert à payer actuellement, ça fait qu'on a 4 à 5% du PIB, juste des avocats, vous gagnez de temps en temps pour le procès, mais au point de vue santé, sur le plan macroéconomique et sur le plan de l'ensemble de la santé, vous gagnerez. Voilà. Alors, quelques remarques sur l'évolution et les tendances dans le domaine du médicament. Alors, est-ce qu'il faut des médicaments de type molécule ou est-ce qu'il faut des biopharmaceutiques? La réponse, c'est les deux, mais le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de petites molécules qui ne seraient pas sélectives, qui auraient un indice de sécurité très faible et qui auraient une activité modérée. Et ça, c'est tout le problème du pénien et du portefeuille des molécules qui sont utilisées actuellement dans un pays comme la France, pour savoir lesquelles on garde et lesquelles on considère sont du domaine du placebo, toxique ou pas toxique. Il faut le faire de manière intéressante, intelligente, il ne faut pas le faire de manière aveugle, et ça c'est un problème qui concerne les agences de santé en France. En ce qui concerne les biopharmaceutiques, le problème réel dans le domaine, c'est d'avoir des outils thérapeutiques qui soient accessibles. Si on reste à des traitements qui sont de l'ordre de 50 à 100 000 euros par an, et si vous multipliez le nombre de patients qui sont en droit d'attendre et d'avoir ce genre de traitement, il est évident que les 12% du PIB n'y suffiront pas, et qu'on ne voit pas comment actuellement, avec un déficit du budget de la sécurité sociale, qui est déjà de l'ordre de 10 milliards par an, 10 milliards que chaque année on reporte sur les générations suivantes, ça veut dire que pour les plus jeunes qui sont dans cette salle, vous allez largement contribuer aux frais de santé de ma génération. Ce qui n'est certainement pas la meilleure chose que l'on ait fait au point de vue budgétaire sur les 30 dernières années, mais c'est comme ça qu'on fait actuellement. Ce qui n'est pas raisonnable. Chaque génération doit payer pour ses frais de santé. Et donc, il faut se débrouiller pour qu'on évite les dérapages des budgets de la sécurité sociale. Voilà. Alors, l'efficacité des OMIC va permettre de faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On va avancer dans le domaine des biopharmaceutiques. Je pense qu'on va réduire, à partir du moment où on s'intéresse à la réduction des coûts, on va y arriver. On va étendre le domaine, le champ d'action, un certain nombre de maladies. Et puis, on va avoir un effort à faire entre cibles et molécules au niveau thérapeutique. Actuellement, il est évident que l'argent consacré à l'innovation est plutôt en faveur des biopharmaceutiques. Ce qui fait qu'un certain nombre de grands groupes disent « Hors des biopharmaceutiques, point de salut !» Mais vous avez un certain nombre de grands groupes qui disent officiellement « Nous ne faisons plus de petites molécules » et qui passent leur temps à signer des contrats avec des sociétés qui ont des noms bizarres et qui sont même capables de racheter des centres de recherche situés en Espagne ici. Et ces sociétés-là font de la recherche en chimie thérapeutique pour les grands groupes qui officiellement n'en font pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les grands groupes, il y a un certain nombre de managers qui disent s'il y a une bonne petite molécule qui passe là et qui permet d'avoir tout de même un retour sur investissement qui soit intéressant et raisonnable, on le fait. Mais la tendance est tout de même de ne pas parler de chimie et de parler uniquement de biologie. C'est pas grave, c'est une question de mode, de vocabulaire, mais voilà. Alors, il y a une deuxième chose sur laquelle je suis particulièrement attaché, c'est cette histoire des modèles animaux. Voilà. Alors, les modèles animaux, ce n'est pas tendance. Le Parlement européen a décidé qu'en Europe, pour les cosmétiques, on n'utilise plus d'animaux. Donc, tous les grands groupes cosmétiques disent qu'on n'utilise plus d'animaux. Bon. Alors, est-ce qu'on le fait directement chez la femme pour voir si vous prenez l'allergie? Ça pourrait être une solution. Non. Les grands groupes sont beaucoup plus raisonnables que ça. Ils savent qu'on ne peut pas le faire en Europe, donc ils le font à l'extérieur de l'Europe. Et souvent, avec des astuces dont je ne vous raconterai pas le détail, mais tout ça, c'est fait de manière hypocrite. Mais le Parlement européen est persuadé que tous les nouveaux produits cosmétiques et dermatos n'ont jamais été testés chez l'animal. Voilà. Il y a une initiative au Parlement européen, sous la pression d'un certain nombre de groupes, qui dit « On a gagné pour les cosmétiques, on a gagné pour la pharma ». Et j'ai même eu entre les mains un document d'une association européenne d'académie des sciences qui disait oui, pour l'instant c'est difficile, mais dans le futur, on y arrivera. On fera du in silico et de in silico direct au in vivo. J'ai refusé de signer ce document en tant que président de l'académie des sciences et j'ai envoyé à certains confrères, y compris les confrères allemands et anglais, un commentaire en disant le jour où en Europe, on interdira l'expérimentation animale pour les nouveaux médicaments, Ça veut dire qu'à ce moment-là, le jour où le Parlement européen va voter cette loi, il faudra qu'il fasse un texte pour dire qu'au procédure inverse, on s'était trompé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le procédure inverse, si vous y réfléchissez bien, Mengele n'était pas un sordide monsieur sadique, c'était un grand professeur de médecine d'une grande université allemande. Lui, il avait décidé que le problème de l'expérimentation animale, ça le gênait, ça ralentissait ses recherches. Et donc, il faisait des expériences directement chez l'homme, y compris en prenant des jumeaux pour avoir un bon témoin. Voilà. Donc, il y a procédure inverse. Alors, quand vous télescopez procédure inverse avec des tentatives de dire qu'on a pu faire d'expériences sur les petites souris de laboratoire, effectivement, les neurones se connectent dans les deux parties du cerveau et les gens disent que ce serait tout de même mieux qu'on fasse avant des essais chez l'animal avant de passer chez l'homme. Le jour où des cliniciens seront autorisés à utiliser des médicaments sans passer chez l'animal, nous aurons du souci à faire au point de vue éthique. Voilà. Il n'y a que dans les pays totalitaires où ça se passe comme ça. J'insiste là-dessus parce que je crois qu'il y a une hiérarchie à respecter dans les choses, dans le, quel que soit le développement d'une molécule in silico, il y a la nécessité absolue sur un modèle animal pertinent de savoir si la molécule est pharmacologiquement active et si son niveau de toxicité est suffisamment faible pour avoir une activité thérapeutique correcte. Voilà. Alors, les robots et la chimie thérapeutique, ça c'était une... Dans les années 80, quelque chose d'intéressant. L'industrie automobile se robotisait. On n'avait plus besoin d'ouvriers, on avait des robots partout. Pourquoi pas en faire autant dans l'industrie pharmaceutique? On fait des petits robots qui font de la chimie, qui font un peu de biologie, et puis on manipule des bibliothèques, qu'on appelle des libraries en anglais, dans des endroits où on a stocké des petites molécules, avec des protéines et des cibles potentielles, et on brasse ça avec des robots, et on attend naturellement à ce qu'ils sortent des choses bien arrivées. Il n'est pratiquement pas sorti grand-chose de tout ça. On a investi beaucoup, ça a permis de robotiser certains tests qui étaient un peu répétitifs et difficiles, pas très amusants à refaire, mais globalement, ça n'a pas apporté de grands événements pour l'innovation thérapeutique. Un exemple classique qui a été publié par GSK, c'est les 7 ans passés par GSK entre 1995 et 2000 à faire ce qu'on appelle du high-throughput screening, en essayant de screener des centaines de milliers de produits chimiques sur 300 produits de gènes bactériens comme cible potentielle, zéro au point de vue antibiotique. Ça a tellement été déprimant, cette étude, que la plupart des grands groupes pharmaceutiques ont décidé d'abandonner le domaine de la recherche sur les nouveaux antibiotiques. Donc actuellement, ce que nous avons, c'est une vieille collection d'antibiotiques, on n'a rien de nouveau